Salut tout le monde, j'allais vous demander comment ça va, mais je sais que c'est difficile, mais là, dans cette période troublée, là, on va tenir le fort tous ensemble, on va se parler, on va s'aider, et c'est ensemble qu'on va passer au travers de ça. Aujourd'hui, évidemment, on va vous parler au cours de l'émission de la fermeture des écoles. Je me demande quel sera le prix à payer pour nos jeunes, le prix académique, évidemment. Mais aussi mental. Nos enfants sont anxieux, ils en arrachent aussi, puis ils le formulent pas tout le temps, ils en parlent pas tout le temps. Remarquez les adultes non plus. Mais d'abord, tout de suite, avec le nouveau confinement là, qui s'annonce tout à l'heure, et même couvre-feu, est-ce que notre santé mentale à nous risque d'en prendre un coup? On va en parler tout de suite avec Mme Rose-Marie Charest, qui est psychologue et conférencière. Bonjour, Mme Charest.
Bonjour, M. Bigard.
Alors, d'abord, vous, comment allez-vous?
Ben, merci de me poser la question. C'est rare qu'on le fait. Je vais bien parce que j'avais prévu une semaine de vacances. Fait que je me sens tout à fait disponible pour répondre à des demandes comme la vôtre, puis ça me fait plaisir d'être là.
Bon, fantastique.
Parce que vous savez, quand c'est difficile comme ça,
oui.
Le fait de pouvoir se sentir utile le moindrement, ça nous aide.
Ah ben oui.
Et ça aide les autres, mais ça nous aide nous-mêmes aussi. Ça donne un sens à tout ça.
Bien, ça donne un sens à notre vie, je peux vous le dire, avec ce que je fais depuis 30 ans pour le refuge des jeunes, mais encore des gens qui confondent ça avec de la générosité, alors que c'est le fait d'être sur son X puis de faire quelque chose qui est utile, ça nous fait du bien. C'est une façon de nous soigner, nous, en même temps, faisons quelque chose
Absolument.
Qui a de l'allure. Donc, je vous comprends très, très, très bien. Bon, là, il y a des gens qui souffrent, là, c'est certain, en ce moment, et il y a des gens qui souffrent même à l'avance, parce que quand on prévoit l'anxiété, on devient encore plus... On devient anxiété de l'anxiété. On a peur d'avoir peur. Alors tout gonfle. Puis aujourd'hui, je vais vouloir essayer de concrétiser ces choses-là pour qu'on puisse revenir à un niveau d'anxiété dont on a besoin pour faire face à une situation angoissante, mais pas plus, pas grimper ça dans le plafond. Vous dites qu'il faut faire la différence entre « ça va mal » et « je vais mal ».
Oui. Et ça, c'est bien important dans une période comme celle qu'on traverse. Parce que si vous demandez aux gens comment ça va, écoutez, ça va pas bien. Il y a beaucoup de choses qui étaient nos zones de support dans la vie, qui sont pas là, mais pas juste dans la vie personnelle, mais dans la société. Mais il y a une différence entre ça va mal et puis moi, comme personne, je vais mal. Ça veut dire je n'y arrive pas. Je suis souffrant. Hein, on est inconfortable à peu près tout le monde avec la situation. Mais il y en a qui sont plus qu'inconfortables, il y en a qui sont très souffrants. Et il y en a pour qui, en plus, la réaction à leur souffrance provoque encore plus de souffrance. Vous en savez quelque chose, hein, parce que c'est le cas de toutes les personnes qui ont des dépendances, quelles qu'elles soient. Hein, on pense à l'alcool, à la drogue. Mais
c'est une tentative d'automédication, mais qui tourne évidemment très mal parce que ce ne sont pas des médicaments. Et non seulement ça, mais on peut prendre même les médicaments et s'en servir comme dope. Je veux dire, quand on suit la vie du médecin, puis on prend les doses que le médecin nous dit, c'est des médicaments. Mais quand on commence à dépasser les doses, bien là, ça devient de la drogue aussi. Ah, il y a une limite là-dedans aussi.
Puis actuellement, là, il y a des gens qui... Tu sais, il y a du jeu compulsif sur Internet. Oui. Il y a des achats compulsifs. Il y a toutes sortes de compulsions que les gens recherchent pour fuir quelque chose et qui vont leur faire plus mal. Ça, c'est une des parties. Mais l'autre partie où on peut se faire encore plus mal, c'est dans nos relations interpersonnelles.
Oui.
Parce que on pense beaucoup aux gens qui souffrent d'isolement, qui sont seuls, puis effectivement, il faudrait que tout le monde pense à tendre la main à ceux qui sont seuls, c'est sûr. Mais ceux qui sont confinés, là, puis qui n'ont pas nécessairement de grand espace où ils ont chacun leur pièce et tout ça, les relations peuvent devenir tendues. Parce que quand vous êtes tendu, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Et vous n'êtes pas au meilleur de vous-même dans vos relations.
Non, puis vous êtes contagieux sur votre entourage aussi.
Oui, effectivement. C'est un bon terme. C'est effectivement contagieux. Parce que la tension, on le sait, par exemple, quand il y a de la tension entre les parents, les enfants le ressentent. Et on le ressent tous comme être humain. On est fait comme ça, puis heureusement, on est fait pour détecter la tension. Mais quand il n'y a que de la tension et que ça ne relâche jamais, ben ça devient difficile pour tout le monde, puis on peut assister à des conflits et malheureusement à de la violence. Parce que moi, je pense souvent dans ces grands confinements-là aux familles dysfonctionnelles où il y a de la violence, verbale ou physique, mais dans tous les cas, qui peut être destructive autant pour la personne qui l'a subie que pour ceux qui en sont témoins. Donc, oui, le confinement, puis je comprends tout à fait, il faut le faire, tu sais, parce qu'il faut sauver des vies, là. Puis il faut sauver notre monde.
Oui, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution, ça, on le sait, mais on sait qu'on est on a de l'air d'être une bataille entre la santé physique et la santé mentale. Ce qui n'est pas le cas. Il faut que tout ça se combine du mieux qu'on peut. Et puis c'est pas le gouvernement qui contrôle ça, c'est le virus. Quand on va avoir des meilleurs chiffres, ça va redescendre, on va pouvoir sortir. Moi, il y a des années, il y a au-dessus de 25 ans, à un moment donné, moi, je me chicanais avec ma blonde. Je dis, ben, je vais prendre de l'air. Elle dit, il y en a de l'air dans la maison. Je dis, ouais, j'aime ça une bière, mon air. Je sortais, j'allais me ventiler un peu tout ça. Puis après ça, on pouvait discuter comme il faut. C'est plus possible maintenant quand on est confinés ensemble.
Puis les gens, je pense qu'il ne faut pas opposer santé physique et santé mentale, mais il faut vraiment prendre en considération ce qui se passe au niveau de la santé mentale, parce que c'est pas parce que ça paraît moins que c'est moins souffrant. Puis l'autre chose, c'est que vous savez, actuellement, on veut pas que les hôpitaux débordent en santé physique. Puis je suis tout à fait d'accord, puis j'ai un énorme respect pour les gens qui y travaillent et tout ça. Mais en santé mentale, les gens ont tendance à ne pas se présenter, à ne pas requérir les services eux-mêmes. Puis je suis contente parce qu'à votre émission, vous allez avoir des gens qui répondent à ces gens-là parce qu'ils veulent savoir où les diriger, parce que les gens, ils ont tellement entendu dire qu'il n'y a pas de service en santé mentale qu'ils en réclament plus. Alors, c'est pas tout le monde qui a besoin d'aller consulter, mais il y en a qui ont besoin d'aller consulter.
Il y a plusieurs sortes de consultations. On peut parler au téléphone avec quelqu'un, ça règle certaines affaires, mais des fois, c'est plus grave, il faut se présenter. Des fois, ça prend une aide médicale, des fois, ça prend une prescription pour venir à bout d'une dépression. À un moment donné, ça peut très, très, très mal finir, une dépression mal soignée. Et puis, des fois, ça commence par le truc chimique, c'est pas suffisant. Il faut faire une thérapie, il faut aller plus loin, mais des fois, il faut commencer par ça dans l'urgence.
Mais ça, c'est une chose qu'on peut dire aux gens. Les médecins de famille actuellement, ils sont quand même assez disponibles parce qu'il y a beaucoup de télépratique. Donc, un coup de téléphone à son médecin, il ne faut pas se dire « Ah, je ne le dérangerai pas » ou « Il n'y aura pas le temps pour moi ». Il faut prendre au sérieux ce qu'on vit au niveau mental puis oser exiger des services autant que si ça saignait.
Et les médecins omnipratiques, les omnis, eux autres, ils peuvent prescrire des antidépresseurs ou des
antibiotiques. Absolument.
Ils sont compétents pour faire ça, là.
Bon, absolument. C'est eux qui le font dans la majorité des cas. La façon dont ça se passe dans le réseau, dans le système, c'est que quand un médecin de famille a besoin d'être orienté, il demande une consultation en psychiatrie. Mais de façon générale, le psychiatre va réorienter le patient vers le médecin de famille en lui donnant des indications sur quoi prescrire. Donc, oui, vous pouvez tout à fait faire confiance à votre médecin de famille qui non seulement a les compétences, mais quand il les a pu, il sait où aller pour aller les chercher. La même chose pour les psychologues. Les psychologues n'ont pas toutes les compétences, mais ils sont supposés savoir à qui demander de l'aide, à qui référer quand ça déborde tes compétences.
On parlait on a beaucoup parlé cette année de masculinité toxique. Un des problèmes peut-être des hommes, c'est d'être obligé de se sentir tough. Plus la situation est difficile, plus ils sentent besoin d'être solide. Et être solide, ça veut dire, je crois, souvent ne pas admettre à quel point on va mal. Est-ce que les hommes ont plus de difficultés à consulter que les femmes?
Absolument, absolument. Ça, c'est... Écoutez, il y a une amélioration.
On est très mal éduqués, hein? Il va falloir vraiment faire beaucoup de travail là-dedans.
Oui, mais premièrement, on a des siècles d'histoire là, derrière nous, là, où les hommes s'identifient davantage à leur force physique, à leur capacité de combattre, à leur capacité de dominer. Leur valorisation vient plus de là. Puis perdre sa valorisation, c'est quand même important. Donc, il faut éduquer les hommes, comme vous dites, puis les garçons, à dire « Hey, quand tu vas demander de l'aide, là, c'est une force, ça. C'est ta capacité d'identifier que tu as besoin d'aide. » Moi, je dis souvent aux gens, vous savez, reconnaître ses limites, là, c'est une force, parce que si vous achetez un terrain, vous voulez savoir c'est quoi les limites de ce terrain-là, ça veut dire que vous voulez savoir c'est quoi la valeur de ce qui est contenu dans vos limites. Alors, quand on va demander de l'aide, c'est parce qu'on reconnaît la valeur de ce qui est contenu à l'intérieur de nos limites, puis on a besoin de ceux qui peuvent nous aider, qui sont à l'extérieur de ces limites-là. Parce que ça, c'est pas nous.
Dis-moi si je me trompe. Il me semble qu'il y a même peut-être une minorité, mais en tout cas, il y a au moins quelques hommes violents qui, parce que, bon, tout le monde a connu la colère, tout le monde sait c'est quoi la rage, pogner les nerfs, mais on réussit à fonctionner comme il faut en société, on réussit à fonctionner avec nos enfants, mais souvent, et pas dans la majorité des cas, la plupart des enfants maltraités ne deviennent pas des agresseurs, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas plus que 5%. Mais, sauf qu'ils font des dégâts alentour d'eux, parce que quand tu t'es fait blesser quand t'es jeune, tu pourras pas, une fois que t'es gros puis en âge de te battre, tu vas pas de venger contre celui qui t'a fait mal, il est loin, lui. Donc, qui c'est qui sont les plus proches? Ceux qui t'aiment. Ouais. Et là, non seulement tu vas être proche, mais tu vas être confiné. Est-ce que s'il y avait eu plus de soins psychiatriques disponibles dès le début et que les hommes auraient été plus capables de demander, il y aurait peut-être eu moins d'hommes qui seraient tournés vers la violence. Y croyez-vous?
J'y crois sincèrement. Écoutez, la meilleure façon de protéger les victimes de violence, c'est d'intervenir rapidement pour prévenir la violence. Alors, si on veut prévenir la violence, il faut s'occuper de la détresse qui se manifeste par de la colère. Il y a un degré de colère qui est acceptable, qui n'est pas destructeur, puis il y a un degré de colère qui est tellement grand qu'il est destructeur. Il est destructeur pour les autres. Parfois, il est destructeur pour soi-même. Et dans l'exemple que vous donniez tout à l'heure du garçon qui grandit, peut-être qu'il ne deviendra pas violent envers les autres s'il a été victime de violence. Il va peut-être le devenir envers lui-même.
Oui, il va s'en prendre à lui-même. On voit beaucoup ça dans la rue. C'est tout le temps la même run, puis ça vient un peu tout le temps du même style d'histoire. C'est une violence quelconque, soit verbale, physique, sexuelle, ou une violence d'abandon. C'est extrêmement violent de dire, enfin, que l'enfant comprenne qu'il ne vaut pas la peine d'être aimé et puis qu'on l'abandonne. C'est d'une violence épouvantable. Alors là, tout ce monde-là est pogné ensemble. Moi, je pense aux familles là, qui sont pognées dans un 4,5 avec 3 enfants. Ça va être difficile. Donc, les émotions vont être à fleur de peau.
Puis là, il faut arrêter là, de dire, ah ben quand il y aura un drame, on fera l'analyse du drame, puis là, on pourra dire, ah ben oui, c'était vrai, la DPJ n'était pas là, ou tel organisme n'était pas là, ou tout ça. Ben, il y a des signes, il faut éduquer la population que c'est pas juste quand on pleure, c'est pas juste la tristesse qui est une émotion où on peut aller chercher de l'aide, que la colère aussi s'en est une, et que si on risque de perdre le contrôle sur notre comportement, que pour protéger les autres et pour se protéger soi-même, on devrait aller chercher de l'aide. Il faut que cette aide-là existe. Il faut qu'il y ait des gens formés puis disponibles pour intervenir auprès des personnes qui risquent de perdre le contrôle.
Parce que la colère, c'est quelque chose non seulement auquel on a droit, mais auquel on n'a pas le choix, de toute façon. Et quand tu lèves la roche de la rage, tu as toujours une grosse peine en dessous.
Quelque part. Quelle belle image, effectivement.
Et je crois qu'à ce moment-là, il va falloir plus. Parce qu'on a droit à notre âge, mais on n'a pas le droit de faire des victimes. Alors là, plus on va être confiné, plus à un moment donné, il y en a certains qui vont pogner les nerfs. Alors, il faut penser aux dégâts qu'on peut faire comme ça. Madame Charest, je vais vous garder avec moi. Vous êtes très intéressante. Mais je vais avoir d'autres invités. On va se faire une forme de table ronde, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Alors, de retour de la pause, j'ai d'autres invités. Puis je voudrais prendre vos appels aussi. La question aujourd'hui, c'est avec le nouveau confinement, est-ce que notre santé mentale risque d'en prendre un coup? Est-ce que vous croyez ça? Vous pouvez nous rejoindre, Mme Charest, moi, puis nos prochains invités, au 514-790-9850 ou au 1-866-790-9850. On revient après la pause. Alors, notre question du jour, avec le nouveau confinement, est-ce que notre santé mentale risque de d'en prendre un coup? Oui, la souffrance va monter, les émotions vont être plus à fleur de peau. C'est correct, c'est normal qu'on vive ça, c'est pas anormal. Ce qui est peut-être déplorable, c'est de ne pas demander d'aide quand on en a besoin. Il faut pas se gêner. Je vous donne tout de suite une couple de lignes. Il y a l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est pas juste pour vous si vous êtes en détresse, mais un de vos proches à côté, il faut refaire notre filet social. Il faut qu'on puisse recommuniquer ensemble, recommuniquer les détresses. Être seul avec sa détresse, c'est très, très dangereux. Alors, si un de vos proches ou vous êtes en détresse, appelez sans frais partout au Québec le 1-866-APPEL. Ça, c'est 1-866-277-3553. Et il y a aussi le groupe Écoute Entraide. Vous pouvez téléphoner là au 514-278-2130 et 1-855 en ligne. Ça, c'est 1-855-375-4463 ou aller sur Internet, faire www.écoute-entraide.org. Et justement, on va parler avec M. Jonathan Brazeau, qui est coordonnateur à Écoute Entraide. Bonjour, M. Brazeau.
Oui, bonjour, M. Bigrand.
Je vous repose la question à vous aussi. Comment vous allez, vous?
Moi, je vais bien. Je vais très bien, honnêtement. On est dans une période à l'organisme quand même difficile. On ne se le cachera pas. Il y a beaucoup d'overtime et les appels sont plus difficiles présentement. Donc, c'est difficile pour tous les bénévoles qui répondent aux appels présentement aussi.
Ils sont prêts avec beaucoup de détresse, en plus de gérer la leur. C'est pour ça que je demande. J'avais écouté la multiple version des films Superman. C'est pas mon style de film, fait que je m'amusais pas beaucoup. Mais il y avait une réplique que j'ai jamais oubliée. T'avais Lois Lane qui tombait en bas d'un building, puis était dans les airs en train de tomber, puis Superman la rattrape, puis il dit « I got you ». Puis elle la regarde dans les yeux, mais il dit « Who the hell got you ?» Qui, tu sais, il dit « Je vous tiens », mais vous qui vous tient. Alors, c'est un peu ça, nos Superman qui travaillent en première ligne comme ça. Soit ils sont dans les hôpitaux, les CHSLD, soit ils prennent les lignes d'écoute, les ambulanciers, les policiers. Tout ce monde-là, eux autres, on oublie qu'ils sont en première ligne et qu'ils doivent affronter, eux, là, aussi leur propre détresse quand ils rentrent à la maison. Là. Parce qu'eux autres, ils en ont eu toute la journée. Et après ça, ils doivent rentrer à la maison, puis ils ont leur propre situation familiale, et c'est difficile aussi. Là, est-ce que vous avez suffisamment d'intervenants en ce moment?
Présentement, oui. On a, je dirais, depuis le mois de mars, on a doublé, voire même triplé les formations.
Oui.
Parce qu'il faut comprendre que dans la première vague, on a beaucoup formé de gens, mais on en a perdu aussi beaucoup. Mm-hmm. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont fait ça quelques mois, même quelques semaines, des fois, qui trouvent ça trop difficile. Puis évidemment, bien, avec ces personnes-là, on les remercie de leur temps. On peut pas forcer une personne à prendre des appels lorsque c'est trop difficile. Mais c'est vrai que les appels, présentement, si on regarde le temps des fêtes a été quand même difficile. On a eu plus d'appels suicidaires que ce qu'on a normalement.
Ben oui,
les appels
bon,
sont
hein?
plus lourds. Il y a plus de détresse, mais on sent aussi plus de frustration. Il y a moins de patience. Les gens sont tannés, donc sont plus raides, oui. Là, je dirais, au téléphone, ce qui est très normal aussi.
Bien, quand on est en grande détresse, c'est très rare qu'on arrive comme dans une publicité avec un beau sourire, Colgate. C'est pas comme ça que ça se passe. Fait que c'est certain qu'on peut avoir un ton désagréable. Les intervenants le savent, mais ils ont beau le savoir, ils ont beau être solides. J'en parlais avec Mme Charret, psychologue, qui est encore sur la ligne, elle est encore avec nous, là. Ça fait du bien d'aider, mais à un moment donné, il faut le reconnaître quand nos limites sont dépassées aussi, parce qu'on y a droit à ça. On a tous nos limites. Et puis des fois, c'est pas de quitter définitivement, c'est de prendre un break puis d'en venir. Je me pose la question en ce moment, ça va juste rajouter du stress. Donc les troubles anxieux, les gens qui sont déjà anxieux, ça va atteindre des plafonds incroyables, ça.
Oui, mais...
Il faut qu'ils parlent, ces gens-là. C'est le silence qui est le pire ennemi de l'anxiété. Parce que là, scénario, oui. On se fait tous les scénarios de marde dans notre tête, là, jusqu'à temps qu'on pète aux frettes, comme on dirait, et, en bon français.
Et j'aimerais ça, moi, savoir qu'est-ce que les gens... C'est quoi les propos des gens qui appellent? C'est quoi les principaux problèmes dont tu vous parles?
Honnêtement, c'est vraiment très varié. Je dirais que ce qu'on a plus présentement, qu'on avait un peu moins avant, au niveau des troubles anxieux, il y en a vraiment plus, on le sent. Donc, que ce soit troubles anxieux ou anxiété, on a plus d'appels. Puis, bien, évidemment, tout ce qui est en lien avec l'isolement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler de leur solitude, qui ont besoin d'échanger avec quelqu'un. Les gens ne parlent pas à personne.
C'est ça. Donc, ils ont besoin de parler. Ouais. Puis, entre autres, de leur anxiété. Mais vous avez raison, Dan, l'anxiété, c'est... c'est sûr que quand il y a des facteurs extérieurs comme ça qui sont inquiétants, il y a une inquiétude réelle, là. Bon, chez quelqu'un qui a tendance à toujours voir le pire, ben là, le pire est encore plus gros que ce qu'il a tendance à voir d'habitude. Moi, un conseil que je donne aux gens dans ce temps-là, c'est que si vous percevez que vous autres, vous êtes toujours en train d'imaginer le pire, là, essayez donc de dire, ouais, le pire, ça, c'est une possibilité. Ça se peut que ça arrive, ça. Mais c'est quoi toutes les autres possibilités? Puis racontez-vous toutes les autres histoires possibles. Et ça met les choses en perspective et ça aide les gens à diminuer leur anxiété.
Alors ça, c'est certain, Mme Charest. Mais il y a aussi les gens qui ont dépassé ce niveau-là, qui eux autres n'arrivent plus à se faire ces scénarios-là. Eux doivent appeler. Parce qu'on peut, en les écoutant, on peut, nous, leur faire ces scénarios-là. De meilleures choses qui peuvent arriver, ça peut relativiser au téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Brazeau?
Oui, bien souvent, les gens qui appellent pour de l'anxiété ou peu importe quelle problématique, le fait de parler à voix haute, un, ça va aider à libérer une certaine tension, une énergie négative, mais ça aide aussi à remettre les idées en place. C'est un peu comme si on faisait une tempête d'idées, un genre de brainstorm à voix haute. Puis souvent, les gens nous disent par eux-mêmes, ben, finalement, tu sais, je vais essayer telle chose. C'est pas nous qui avons dit, ben, essayez telle chose. C'est vraiment à force de parler, mettre les choses en place. Ces personnes-là trouvent des idées par eux-mêmes. Puis des fois, le seul besoin, c'est de diminuer le niveau d'anxiété. Puis ça va permettre à ces personnes-là de peut-être mieux dormir le soir, d'aller avoir plus d'énergie le lendemain, de passer une meilleure journée, une journée peut-être plus facile que...
Je fais attention de ne pas jouer au Dr. Phil, site, là, mais j'aimerais quand même donner un conseil, c'est que l'anxiété se nourrit elle-même. À un moment donné, il n'y a plus de limite à ça. On ne peut plus raisonner. Et c'est là que les pensées noires viennent. Alors que de simplement partager ça, parce que ce qui n'est pas partagé, ce qui reste comme... On vient beaucoup d'une éducation, beaucoup de choses étaient tabous. Donc, beaucoup de sujets souffrants étaient tabous. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont souffert toute leur vie puis qui ont fait des dégâts alentour d'eux-mêmes toute leur vie. C'est vraiment par le partage de pouvoir exprimer ça, d'avoir le droit de l'exprimer. Quand on sort des choses épouvantables, on peut, à quelqu'un qui est prêt à nous écouter, il vaut mieux ça que de le faire à nos familles. Je vais vous garder, M. Brazeau et Mme Charest, excusez-moi. Et puis, on va commencer à prendre des appels. On a Sylvain au bout du téléphone. Salut, Sylvain.
Salut.
Salut. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, nous autres, on va bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Puis, tu as vu, on essaye de parler logiquement pour descendre notre propre niveau d'anxiété. Je m'aperçois que les trois, on le fait un petit peu aussi. Là.
Bon, je vais vous faire une histoire courte. Moi, j'ai été agressé en enfance, de 7 à 9 ans et à l'âge de 11 ans. Okay. Et puis, j'ai développé un trouble de personnalité limite qui a été diagnostiqué à 44 ans.
OK.
Je savais que j'avais quelque chose. Dans le passé, je savais que j'allais pas bien, ou tu sais. Puis, bon, suite à ça, mon trouble de personnalité limite, j'ai de la violence, je suis pas bien dans ma peau, c'est en contact, là, tu sais, rapproché avec une personne, autrement dit ma conjointe, que ça va pas. Dans la société, ça va parfaitement, mais mes excès de colère, c'est surtout à la maison. Et j'ai un trouble d'anxiété aussi, là, énorme.
Mm-hmm. On diagnostique les troubles de personnalité limite, on leur donne des noms, ce que je comprends. En psychiatrie, il faut pouvoir un peu sous-grouper tous les problèmes d'émotion que les gens reconnaissent pour pouvoir avoir des molécules, par exemple, des médications chimiques et puis des traitements appropriés. Je comprends. Mais c'est comme par exemple, Sylvain, comme moi, bon, l'expérience que j'ai, c'est quand on me parle d'enfant à problème, moi, j'entends jamais cette phrase-là. Ça se convertit dans ma tête tout de suite en enfants qui ont dû réagir aux problèmes que les adultes leur ont donnés. Et c'est exactement ce que j'entends quand tu parles de toi comme étant une personnalité limite. Je trouve que c'est pas toi qui as un problème. Peut-être pour ta femme, tu peux en devenir un à un moment donné, puis là, c'est certain qu'il faut que tu t'ouvres puis que tu parles, mais c'est pas toi le problème. C'est ce qui t'a été infligé. Qu'est-ce que vous en dites, Mme Charest?
Bien, c'est-à-dire qu'il faut pas se sentir coupable, mais il faut être capable d'être responsable. C'est vrai que notre souffrance, souvent, la très, très grande majorité des cas, elle est due à des expériences passées. Maintenant, le passé, on ne pourra pas le changer, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cet état-là actuellement? c'est sûr que la culpabilité va aider personne, mais la responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pour éviter, comme vous disiez tantôt, éviter que ma colère à moi soit une source de souffrance pour les autres, pour éviter d'exploser.
Surtout nos proches, parce que là, on parle d'un état de confinement.
Éviter d'exploser. C'est quoi mes signaux, moi, qui vont faire en sorte que là, si ça continue, je vais exploser, là? Ben, les gens qui traitent, justement, les personnes qui souffrent de différents problèmes de colère, notamment chez les personnes qui ont un diagnostic de personnalité limite, ce qu'ils font, c'est qu'ils les aident à identifier les signaux précurseurs. Un peu comme les gens qui font une crise d'épilepsie, on leur apprend à identifier qu'elle s'en vient pour pouvoir s'étendre, pour pas se faire mal davantage. Ben, c'est la même chose par rapport à la colère. Il faut être capable d'identifier ce qui s'en vient pour se mettre à l'écart, pour pas faire de tort aux autres et pas, évidemment, s'en faire à soi-même aussi du même coup.
Oui, ça soulève, Mme Charest, ça soulève une excellente question à Sylvain, si tu es encore là. Sylvain, est-ce que tu te sens coupable de ton état?
Non, pas vraiment, mais ce qui m'enrage le plus, c'est la non-reconnaissance. Écoutez, j'ai fait des poursuites, là. J'ai poursuivi mes agresseurs, là. Présentement, oui. Je suis en poursuite contre des agresseurs, là.
Oui.
Parce qu'il y en a trois. Puis j'en ai poursuivi un, qui est celui qui a l'âge de 11 ans, et puis on m'a dit, preuve circonstancielle, on peut pas poursuivre. Fait que, tu sais, c'est enrageant parce que, bon, tu sais, je veux dire, on nous amène à dénoncer, puis après ça, on nous dit, on peut pas poursuivre.
Ouais,
ça c'est le système de justice, puis j'en ai déjà parlé, puis je suis même tombé sur les nerfs du ministre que Jean-Barrette, mais on en reparlera, mais c'est à refaire. Oui.
On nous apprend en thérapie, parce que moi, j'ai un suivi psychologique avec un psychologue et tout, là.
Oui.
Et puis, on nous apprend en thérapie à dire à nos proches, là, quand on vous dit arrête, c'est plus le temps, lâchez prise. Tu sais, ma conjointe, je vais vous conter une petite anecdote. Hier, moi, j'ai plongé. J'étais dans ma bulle.
Oui.
J'étais down. Là, ma conjointe, elle me lâchait pas. Qu'est-ce que t'as? J'arrête. Lâche-moi. Je suis dans ma bulle. Encore un matin, elle m'a appelé. Elle dit, là, t'es-tu correct? Arrête. Laisse-moi décanter, là. C'est comme lâcher prise. Quand il y a une chicane, faut lâcher prise. Quand je dis, moi, je m'en vais dans la chambre.
Des deux côtés. Je comprends.
Ouais, c'est ça. Quand il y a une chicane, je m'en vais dans la chambre, puis lâche-moi, viens pas à charge.
Surtout confiné. Je comprends. Merci beaucoup, Sylvain. Ça, c'est une chose. C'est parce qu'il y a le pratico-pratique, justement, de comment éviter des dégâts, mais il y a aussi le fait que souvent, on n'est pas le seul à être en colère dans la maison. Là. Il y en a d'autres aussi. Il faut faire attention. Madame Charest, je vous coupe, je suis obligé, parce qu'il faut que je prenne une petite pause commerciale, mais on revient tout de suite et on continue cette discussion-là tout de suite après la pause. Alors, je vous rappelle notre question. Avec le nouveau confinement, est-ce que notre santé risque d'en prendre un coup? Il y a des moyens de briser ces patterns-là, d'appeler, de demander de l'aide. J'en parle avec Rosemarie Charest, qui est psychologue, avec Jonathan Brazeau, qui est coordonnateur à Écoute Entraide. Ils sont avec nous. Mais je vais inviter aussi M. Jérôme Gaudreau, qui est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bonjour, M. Gaudreau.
Oui, bonjour, M. Bigras.
Alors, je commence par la même question aux autres, parce qu'on a tous le droit de se le demander. Là, il n'y a personne qui est mieux que les autres. Comment vous allez-vous?
Ben moi, personnellement, ça va très bien. Je suis entouré de mes proches, ma famille. Donc, on s'organise pour l'école et être en mesure de travailler en même temps. Donc, c'est sûr que c'est de l'organisation, mais en même temps, on s'adapte.
Je comprends qu'il y a de ça, parce que j'ai plusieurs couples de mes chums qui se disaient, mon Dieu, on va s'égorger, nous autres. Et puis finalement, ça a été 10 fois mieux. Ils se sont redécouverts dans ce reconfinement-là. Je pense que c'est l'instinct humain d'essayer de s'organiser avec ce qu'il y a. Ceci dit, quand on vous appelle vous, c'est parce que là, on en est rendu plus loin. Je sais qu'on n'a pas de données probantes sur l'augmentation des cas de suicide en lien avec la pandémie, parce que compiler ça, généralement, c'est sur minimum 2 ans. Mais est-ce que vous croyez, votre impression à vous, est-ce que vous croyez que le taux de suicide peut augmenter?
Bien, c'est certain que dès le début de la pandémie, au mois de mars, nous, on était très inquiets de l'impact que ça pourrait avoir sur les taux de suicide au Québec. On sait que les taux ont diminué de manière constante là, depuis 20 ans au Québec. Donc, les choses s'améliorent tranquillement, pas vite. Mm-hmm. Et là, c'est certain qu'il y a un risque important là, que la situation empire. Donc, on est en contact avec le bureau du coroner régulièrement, qui, malgré le fait, là, comme vous l'avez dit, là, on n'a pas les données formelles et officielles. Ça va prendre une couple d'années avant qu'on les reçoive. Mais ils sont quand même en mesure d'observer la situation à partir des données préliminaires. Et selon ce qu'ils nous disent là, depuis, du moins jusqu'à la fin du mois de novembre, là, on n'a pas encore eu les infos pour le mois de décembre, mais il n'y aurait pas eu d'augmentation significative du nombre de décès par suicide. Donc, ça nous rassure, mais il reste que on continue à monitorer pour observer la situation parce que les impacts sur la santé mentale des gens pendant la pandémie, eux, sont bien réels et ont été observés.
C'est très bien que vous le disiez, puis c'est quand même une bonne nouvelle que ça se rend pas de façon massive jusque-là. Donc, ça indique que, d'une certaine façon, il y a plusieurs personnes qui réussissent à trouver de l'aide. Je vais redonner juste les numéros rapidement. L'Association québécoise de prévention du suicide, si vous allez mal, vous ou un de vos proches, vous pouvez appeler le 1-866-APPEL. Ça, c'est le 1-866-277-3553. Ou vous pouvez appeler Écoute Entraide, qui est au 514-278-2130, ou 1-855 en ligne, donc 1-855-365-4463, ou écrire à www.écoute-entraide.org. On ne laissera jamais assez les coordonnées de ça. Notre devoir, c'est que on a un devoir en société de s'entraider, mais notre devoir personnel, quand on va trop mal, c'est notre devoir d'en parler. Parce que on peut, quand on commence à perdre les pédales, on peut s'en prendre à nous-mêmes et on peut s'en prendre à nos proches. On peut, je vous parle pas nécessairement de violence à coups de poing, mais arrêter de se parler aussi. Madame Charest, il me semble que c'est une violence aussi, refuser de parler à son conjoint quand ça va mal. Oui, poser des questions, on répond pas. C'est passif-agressif, mais c'est aussi violent.
Oui, absolument, parce que vous parliez d'abandon tout à l'heure. Quelqu'un qui coupe la communication avec l'autre, il se trouve à abandonner l'autre. Et ça, c'est une agression en soi. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent avoir besoin de se retirer. Et j'entendais bien ce que le monsieur disait tout à l'heure, que lui, des fois, quand il s'en va bien, il a vraiment besoin de se retirer. Et là, à ce moment-là, il faut vraiment trouver une façon de le dire pour que l'autre ne se sente pas rejeté, abandonné. Tu sais, c'est pas toi, là. C'est juste moi, j'ai besoin
de dire, c'est pas de ta faute. Je te parle pas, mais c'est pas de ta faute, parce que là, j'ai besoin d'entrer dans ma bulle puis de réfléchir, comme Sylvain disait tout à l'heure.
C'est ça. C'est temporaire. C'est pas parce que je veux te rejeter. Puis une chose que, bien, vous savez, par rapport au suicide, moi, je trouve que c'est très, très important. On a réussi au Québec à faire, puis vraiment l'Association de prévention du suicide y est pour beaucoup, à prévenir plus de suicides. Il y en a encore trop, mais on en prévient plus. Donc, il faut pas lâcher. Il faut pas se dire...
Non, il y en a trop, mais un, c'est trop déjà,
Il faut continuer. Mais on sait qu'en temps de guerre, par exemple, il y a moins de suicides. Quand les gens doivent se battre pour protéger leur vie, ils ont moins l'impulsion de
mettre fin eux-mêmes, oui.
Il y a quelque chose là de...
Ils ont plus l'instinct de la protéger.
C'est ça. Ils ont plus l'instinct de la protéger. Puis, tant mieux si actuellement, l'énergie des gens est orientée vers ça. Mais, vous savez, quand vous me demandez au début de l'entrevue, là, si j'allais bien, puis je vous ai dit, ben, moi, quand je peux rendre service comme ça, ça me fait du bien. C'est vrai pour tout le monde, ça. Puis, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de besoins. Fait que tout le monde peut avoir l'occasion de rendre service à quelqu'un. Et ça, j'encourage vraiment les gens. Tous les organismes communautaires ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'assistance. Mais aussi, quelqu'un seul, puis je dirais, telle personne est seule, je vais au moins donner un coup de fil. C'est vrai qu'on n'a pas grand... Nos moyens sont limités pour ce qu'on peut faire, là, mais ça donne du sens. Et le fait de ne pas trop penser à ce qui m'arrive à moi en se dirigeant vers les autres, ça aide aussi.
Bien, c'est évident que ça devient moins une obsession qui tourne en rond dans notre cerveau. À partir du moment où on peut l'échanger. Donc, on parle de notre filet social. Je vous parle des numéros auxquels on peut appeler. Mais c'est certain que les amis, c'est important. Et puis, pour reprendre vos propos, Mme Charest, c'est que pendant qu'on se fait aider par notre ami, on peut l'aider aussi. Hein? Ça va des deux bords, ça. Le secret, c'est la communication.
C'est ça. Exactement. La présence aux autres aussi.
Absolument. On va prendre un autre appel. Roger. Salut, Roger.
Oui, salut, ça va?
Ça va très bien. Toi, comment tu vas?
Oui. J'ai généralement oui. La raison vraiment que j'appelais, c'est relié à ce que tu parles de COVID puis du confinement. Puis je me demande si pas juste les policiers, mais les gens réalisent que la colère et la rage augmentent quand les gens voient comme un Pierre Arcan ou d'autres policiers à travers le Canada faire le contraire de ce qu'ils demandent aux gens de faire, de se confiner. Et je me demande si c'est pas y a pas un besoin d'avoir des bons exemples positifs par rapport aux politiciens pour aider à réduire la colère puis la rage. Et parce que sinon, il me semble que ça rend les choses pires, non?
Roger, tu as entièrement raison, non seulement ça, mais je vais... tout le monde qui est en position de donner exemple doit le donner, non seulement, par exemple, en ne voyageant pas, deux, en communiquant, je le répète toujours, pour s'aider, parce que là, si on est confiné, ça veut dire que c'est plus les FaceTime, les Zoom, le téléphone, tout ça. Faut pas garder ça pour nous tout seuls, mais c'est certain qu'en ce moment, il y a une grosse partie de la population qui se dit, moi, je me suis restreint au maximum, je me sens puni, puis les autres le font pas, puis j'étais écœuré de subir les maudites conséquences pour ceux qui respectent rien. Alors ça, ce qui est très dangereux là-dedans, je suis d'accord avec toi, Roger, c'est que ça sépare le Québec en deux clans, et ça ne devrait pas, on devrait être le même clan. L'ennemi, c'est le virus, c'est pas nous-mêmes. Est-ce que, Mme Charest, est-ce que vous croyez que c'est une tendance, ça, de s'en prendre l'un à l'autre quand on est désespéré, puis qu'on ne voit pas notre ennemi parce que c'est un virus?
En psychologie, c'est documenté le phénomène du clivage, que quand on devient très tendu, très souffrant, on a tendance à trouver un bon et un mauvais. Évidemment, si on veut être du côté du bon, on trouve un mauvais qui est l'autre. Et il y a des gens à l'extérieur qui nous donnent un peu l'occasion de les trouver mauvais. Parce qu'ils ne respectent pas les règles ou des choses comme ça. Mais ce qu'il faut voir, quand même, moi je suis d'accord, il faut absolument faire la paix entre nous dans le sens où la solidarité, c'est un facteur de protection dans une période de crise. Psychologiquement, de sentir que c'est ensemble. Donc, ceux qui s'écartent de ça, ils font du tort aux autres, même s'ils n'attrapent pas le virus, même s'ils ne le transmettent pas, parce que ce sentiment de solidarité-là est brisé. Puis ça, on en a besoin.
On prend ça comme une trahison. Je comprends. Merci beaucoup, Roger. T'as entièrement raison, mais il faut absolument pas se battre les uns avec les autres. Il faut complètement s'entraider. Monsieur Brazo, coordonnateur d'Écoute Entraide, votre aide va être infiniment cruciale dans cette période-là. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous. Je vous remercie.
Ça fait plaisir.
Passez une belle journée. C'était Jonathan Brazo, coordonnateur d'Écoute Entraide. Et M. Gaudreau, merci aussi. On compte tellement sur vous, sur vos bénévoles, et même sur ceux qui ne sont pas capables, qui laissent, parce que c'est humain, de connaître ses limites. Et puis peut-être qu'ils peuvent revenir après, c'est tout ça. Mais vous êtes dans un... c'est vous qui êtes à l'avant dans cette espèce de guerre pour notre santé mentale puis pour notre bonheur. Merci beaucoup, M. Gaudreau.
Merci à vous.
Passez une belle journée. C'était Jérôme Gaudreau, qui est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. J'ai pas respiré avant. J'ai remarqué Justin Trudeau fait ça. Il parle puis il respire dans le milieu de ses phrases. Ça me tape tellement ses nerfs. Il fait pas en anglais, il fait en français. C'est-tu bizarre?
C'est vrai.
Mais ça, c'est une affaire qu'un chanteur comme moi devrait savoir. Puis là, je viens de donner le mauvais exemple. C'est pas très grave. On prend une petite pause. Madame Charest, je vous garde avec nous jusqu'à la fin. Et puis, on revient tout de suite. Alors, je vous rappelle notre question. Notre première heure porte là-dessus. Est-ce que pendant le nouveau confinement, notre santé mentale risque d'en prendre un coup? Est-ce que la détresse peut monter? La réponse, c'est oui. Mais la réponse, c'est ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça. Il y a des solutions. La première solution, avec tout le monde que je parle, tout le monde est d'accord, c'est la communication. Mon père était psychanalyste, puis lui, il disait que le non-dit honteux finit par tuer.
Il a raison.
Il a raison là-dessus, hein, madame?
Ah, Seigneur, oui, tout à fait. La honte en particulier. Et ça, c'est une des choses qu'il faudrait éviter, là. Parce que, vous savez, il y a des gens... La honte, là, ça peut être... les gens peuvent avoir honte de toutes sortes de choses qui sont pas du tout justifiées. Par exemple, les pertes financières. Beaucoup de personnes vivent de la honte par rapport aux pertes financières.
Aller demander de l'aide à des banques alimentaires, par exemple, quand tu as toujours gagné ta vie, je vous assure que c'est très dur.
Oui, c'est ça. Puis vous racontiez, vous, des gens qui ne voulaient pas aller chercher de l'aide, même s'ils en avaient cruellement besoin. Oui. Et on voit des enfants dans les écoles qui ne veulent pas aller chercher l'aide parce qu'ils ne veulent pas. Donc, ça, il faudrait vraiment lever le voile de la honte par rapport à tout ça. Moi, je dis à tout le monde, là, il faut avoir au moins une personne dans notre vie à qui on dirait les choses dont on a honte. Parce que c'est en parlant avec quelqu'un que la personne va... On va jeter un éclairage là-dessus. Parce que souvent, la honte, c'est le sentiment d'avoir failli soi-même. Et là, dans ce cas-ci, par exemple, les gens qui ont des pertes financières, là, c'est pas individuel, là, c'est collectif. Là. Oui, faut arrêter de porter tout seul un phénomène qui est collectif.
Oui, puis
et même en d'autres temps.
Oui, mais je pense qu'il faudrait dire aussi, peut-être principalement aux hommes, mais à tout le monde, être solide, là. Ça, pour être solide, il faut commencer par parler de nos fragilités. Quand on en parle et qu'on est dans un état plus fragile, ça ne nous empêche pas d'être solide pour le reste. Ça nous aide énormément. Alors, le fait d'être solide dans le silence, ça, je trouve ça dangereux. Je vous le dis, Mme Charest, parce que ça veut dire qu'entre 25 et 30 % des gens qui ne demandent pas d'aide ont besoin d'aide. Alors moi, c'est plutôt pour eux que je m'inquiète. Les autres, on va réussir à s'appeler les uns les autres, mais il y a un pourcentage qui ne sont pas capables de demander. C'est leur principal problème, je crois.
Oui. Puis, pour poursuivre votre image, là, quand on est fort, on plie, on casse pas.
Oui.
Fait que c'est une façon, aller vers les autres, ça peut être une façon de plier, mais pas... C'est pas être inférieur à l'autre, c'est être égal à l'autre. Aller chercher de l'aide,
oui, parce que l'aide,
c'est
pas...
reconnaître son humanité.
Puis l'aide, on la demande pas en haut, puis nous, on est en bas. On la demande alentour de nous, puis on la donne alentour de nous, on la donne pas en bas.
Absolument.
Non plus. C'est circulaire.
Et mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça a été dit tout à l'heure, le fait de parler, le fait d'être forcé de mettre des mots sur ce qu'on ressent, juste, ça fait juste enlever tout le flou. Quand les émotions sont toutes mêlées, là, tout est flou, tout est de la même couleur. Mettre des mots, puis être en relation avec quelqu'un.
Oui, parce que t'arrêtes de tout porter sur tes épaules toi-même. Madame Charest, merci beaucoup. Je vous ai gardé toute l'heure. Vous êtes passionnante. J'espère qu'on va se reparler.
Ça me fera plaisir.
On souhaite bonne chance à tout le monde, y compris à vous.
Oui.
Notre morale à nous est important aussi. Au revoir, Madame Charest. C'était Rose-Marie Charest, qui est psychologue et conférencière. Et là, devant moi, protégée par un beau plexiglas, comme quoi on peut positionner nous autres, c'est moins grave. j'ai notre chère Nathalie Normandeau qui va prendre la relève à partir de midi. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Ah, ben, de plusieurs choses. Tout d'abord, le couvre-feu. Puis là, tu parlais avec Rose-Marie Charest.
Oui.
Des impacts sur la santé mentale et tout ça. Nous, on va aller dans une autre direction, puis on va demander à nos auditeurs, est-ce que vous croyez que le couvre-feu va changer quelque chose? Assurément, ça va changer quelque chose dans nos vies, mais est-ce que vous croyez que le couvre-feu va contribuer à faire diminuer les cas de COVID? Est-ce que ça va marcher, en fait? Parce que c'est quand même un pari risqué que prend le premier ministre. Là. On parle d'un électrochoc.
Politiquement, c'est très dangereux.
Effectivement, c'est très dangereux. Puis on dit que le premier ministre va envoyer un électrochoc, tu sais, aux Québécois, dire là, gagne... L'heure est grave, là. Il faut se réveiller, il faut se prendre en main. On va aussi parler d'une opération vaccination en projet pilote qui va se déployer dans les prisons fédérales. Ça suscite beaucoup de questionnements. Il y a des gens qui disent, ben voyons donc, on va vacciner des prisonniers de 65 ans et plus dans les prisons sans prendre le soin de vacciner les agents qui sont dans les prisons, qui, eux, peuvent être des vecteurs importants de contamination. Puis deuxièmement, ben moi, par exemple, Dan, mon père est en CHSLD, il n'est pas encore vacciné. On est rendu le 6 janvier. Puis il y a des prisonniers qui vont être vaccinés.
Je crois qu'on ne peut pas mettre une valeur sur les êtres humains.
Tout à fait d'accord avec toi.
Ça. Donc, tous les gens, il faut passer par l'urgence. Tous les gens qui sont en première ligne, donc les agents, effectivement, tu as entièrement raison. Mais tous les gens qui sont confinés, doivent absolument être vaccinés en premier et qui sont confinés et qui doivent faire face à plusieurs cas de contamination possible. Ça veut dire les gens, par exemple, en CHSLD et en prison.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut pas attribuer une valeur. Effectivement, un être humain est un être humain, qu'il soit en prison ou ailleurs. Mais il y a des gens qui se questionnent. Aux États-Unis, on l'a déjà fait, mais on se demande, mais pourquoi, puis qu'est-ce qui va arriver dans les prisons québécoises, hein, dans les pénitenciers, dans les prisons québécoises, il y a les pénitenciers au fédéral, puis les prisons québécoises. Enfin bref, toutes sortes de questions dès midi dans Normando PM.
Ben, on va t'écouter.
Merci beaucoup.
Moi,
Dan,
comme d'habitude, dans mon char. T'es vraiment ma radio de char. T'es rendu ça. Ben, ça compte de nos horaires.
Je suis devenue sa radio de char.
Mais c'est parce qu'on est dans, c'est nos horaires qui font ça.
Oui, c'est vrai.
Oui, t'es ma radio de char. Puis je t'écoute avec plaisir.
Merci.
Prends soin de toi. Puis bonne émission tout à l'heure. C'est les nouvelles. Et puis, moi, je vous reviens tout de suite après pour notre deuxième heure. À tout de suite.